Vous allez entendre un extrait de 5 minutes environ d'une conférence donnée en janvier 2009 à la Cité des sciences de Paris par Jean-Marc Lévy-Leblond, professeur émérite à l'Université de Nice. Il y expose brillamment à quel point le bain culturel, notamment de musique et de peinture, dans lequel évoluait Galilée, a été déterminant dans les percées scientifiques qu'il a réalisées.
Il naît en 1564 à Pise. Il passe sa jeunesse à Pise et à Florence, c'est donc un Toscan. La famille Galilée, Galilée est une famille toscane relativement prospère. Ils ont connu des revers de fortune dans les générations précédentes. Le père de Galilée, Vincenzo Galilei, est un assez riche commerçant et en même temps un grand musicien. C'est un compositeur et même un théoricien de la musique, ce qui fait que Galilée va dès son enfance baigner dans le milieu culturel le plus profond de la Toscane de son époque et sera familiarisé avec la musique, avec la peinture et avec la littérature. Et c'est essentiellement ça qui sera le thème de mon exposé aujourd'hui. Sa famille l'envoie étudier la médecine à Pise quand il a 16-17 ans. Ça ne lui convient pas du tout, ça l'ennuie. Il quitte l'université et se met à étudier avec un ami de la famille, Ottilio Ricci, les mathématiques. Il a 19 ans. Il étudie à son compte les mathématiques et il lui montre très vite des dispositions absolument remarquables. Très rapidement, il va acquérir une connaissance mathématique assez sophistiquée pour son époque. En particulier en lisant les œuvres classiques d'Euclide et d'Archimède, qui ne sont pas tellement répandues encore chez ses confrères. En 1586, il commence à faire un vrai travail de recherche à titre personnel, il est toujours jeune, il fait ses premiers travaux de mécanique. En 1588, c'est un épisode sur lequel je reviendrai, il donne, et ça peut vous étonner, mais c'est justement le point focal de ce que je vais développer ici, des leçons sur l'enfer de Dante. Ça peut paraître très curieux, ce jeune homme mathématicien, mécanicien, futur astronome, qui donne des leçons littéraires, un commentaire littéraire sur l'enfer de Dante à la demande de l'Académie florentine. Je développerai cet épisode tout à l'heure parce qu'il est important pour la science de Galilée, contrairement à ce qu'on aurait pu penser. En 1592, où il commence à être connu par ses travaux, il a une bonne réputation, il décroche une chaire à l'université de Padoue. Padoue est à l'époque sous la dépendance de Venise, donc il est dans la République vénitienne. Padoue est une très grande et vieille université, et il se met à y enseigner les mathématiques et l'astronomie. Il va vivre 18 ans à Padoue et ça va être un moment tout à fait capital dans son développement. À partir de 1596, son intérêt pour l'astronomie, il a beaucoup lu. Jusqu'à présent, il a été relativement prudent. Là, il commence à dire non, mais finalement, c'est le système copernicien qui est le bon, qui est encore tout à fait à l'époque minoritaire, pas partagé et regardé avec suspicion. Il s'affirme copernicien, en particulier dans sa correspondance avec un certain nombre de ses collègues. Et il revendique, mais à titre, je dirais, semi-privé, il ne publie encore rien sur ce sujet-là, mais il fait savoir que sa conviction est désormais claire. Et voilà l'année 1609, celle que nous fêtons aujourd'hui, donc c'est le quatrième centenaire de cette année. Il commence ses observations avec la lunette astronomique. Lunette que, contrairement à la légende, il n'invente pas du tout. La lunette a été inventée de façon tout à fait empirique par de modestes artisans lunetiers hollandais, 10 ou 20 ans auparavant, et des modèles de lunettes qui sont plutôt des sortes de gadgets de foire, circulent à travers l'Europe dans les premières années du XVIIe siècle. Galilée en obtient une. Et se met par contre rapidement à la perfectionner, puisque, ne l'oubliez pas, il est à Venise qui dispose d'une industrie verrière extrêmement importante, encore aujourd'hui d'ailleurs, les verres de Murano sont bien connus, et donc il existe autour de lui d'excellents polisseurs de lentilles, et ce qui lui permet de fabriquer des lunettes d'une précision et d'une efficacité avec un grossissement qui n'était pas le cas jusque-là. Il commence ses observations, et il les publie en 1610. Les observations les plus importantes, il les fait, nous en fêterons dans un an l'anniversaire, il les fait à la fin du mois de janvier 1610. Et en quelques journées, soirées plutôt, quelques nuits, Il découvre l'existence de montagnes sur la Lune, les satellites de Jupiter, le fait que la Voie lactée n'est pas un vague rument blanchâtre dans le ciel, mais un semis de myriades d'étoiles. Qu'est-ce que j'ai oublié? Je dis les phases de les montagnes de la Lune et les satellites de Jupiter qui jouent un rôle extrêmement important. Ce sont des découvertes absolument majeures. Il y a là un épisode de quelques nuits qui est vertigineux parce qu'on a un homme seul pour l'instant, il ne le restera pas très longtemps, mais qui brusquement fait passer, on a envie de dire, l'humanité tout entière du monde clos, qui était celui d'Aristote et du Moyen-Âge, à l'univers infini. Du monde clos à l'univers infini, c'est le titre d'un ouvrage célèbre de l'historien des sciences Alexandre Coiré. Et donc c'est dans ces nuits de janvier 1610 que nous passons du monde clos à l'univers infini.